Et nous accueillons Raymond au 3921. Bonsoir Raymond.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, ça va. Bon, j'écoutais un peu la personne juste avant. Bon, c'est différent.
Voilà. Oui, c'est différent. Mais de toute façon, c'est ce que je dis à tous ceux qui nous appellent chaque soir, c'est que on a un monde à nous tout seuls, et puis voilà, c'est notre vie, elle ressemble pas à celle d'à côté, et chaque histoire mérite qu'on s'y arrête et puis qu'on en discute, qu'on en parle, et puis surtout à chaque fois que quelqu'un se raconte comme ça, j'imagine toutes celles et ceux qui écoutent comme ça partout en France et puis qui prennent cette histoire et puis qui la digèrent et puis qui prennent dans cette histoire les choses qu'elles ont envie de prendre. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Alors vous, Raymond, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi.
Bah moi, je porte mon témoignage, en fait, parce qu'effectivement, à un moment, on n'entendait que ça, un petit peu, sur le sujet de la PMA, les personnes qui étaient en recherche de leur origine,
ouais.
Choses comme ça, et beaucoup d'émissions un petit peu passées un peu. Et un soir, je dirais même plutôt dans la nuit, il y a une émission... et sur lequel j'étais un petit peu concentré, et dont une personne spécialiste des tests ADN, qui est d'ailleurs devenue détective à titre personnel, racontait son histoire. Et c'est une personne qui habitait Châteauroux, et son histoire, elle est relativement simple. Il recherchait son père qui était militaire américain dans les bases de l'OTAN de Châteauroux,
oui.
Et dont il expliquait... quand il était jeune, il questionnait sa mère et la question, il lui demandait le nom de son père, qu'il ne connaissait rien, et elle lui avait dit le nom de John Wayne Nelson, John Wayne comme l'acteur.
Ouais.
Donc c'est vrai que quand on est gamin, oui, ton père John Wayne, bon, on a toujours le côté un peu comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il expliquait, et moi je suivais attentivement cette émission-là avec lui. Et effectivement, et on le voit, il retrouve son père par le biais de tests ADN américains, que c'est interdit en France d'ailleurs, et ça fait pas partie des projets de loi sur la PMA, bien au contraire. Alors que aux États-Unis, c'est monnaie courante, c'est même plus que ça d'ailleurs, parce que les gens sont en recherche de leur origine aux États-Unis, ils sont en recherche de leur provenance, de ce qu'il en est. Et lui a retrouvé son père, et il a retrouvé son père et non plus une bonne partie de sa famille. Donc moi, il devait être 2h30, vous voyez, le genre d'émission qu'on regarde quand on dort pas trop parce qu'on pense à autre chose. Et en fait, je me suis retrouvé avec une histoire complètement similaire à la mienne et mon frère jumeau. Mon frère jumeau s'appelle Roland.
Ouais.
Nous sommes originaires d'Evreux, des bases américaines. Notre père était des bases américaines de l'OTAN, la base 105 de Fauville.
D'accord, je vois très bien aussi parce que vous savez que je suis d'Evreux.
Oui, je sais que vous êtes d'Evreux, c'est pour ça. Donc, et je me suis dit... alors, lui, il en a fait sa spécialité. Il est devenu détective et spécialiste, justement, des tests génétiques qui sont assez... C'est assez compliqué, d'ailleurs, pour les interpréter, tout ça. Et j'ai réussi à attraper sa page le lendemain parce que, finalement, j'ai mal dormi avec ça. Je me suis réveillé avec ça, en fait.
Oui.
Je me suis réveillé avec ce sujet et je l'ai appelé. Et on est resté 3/4 d'heure au téléphone, comme si on se connaissait depuis... Voilà.
Ouais.
Et il m'a dit, moi, votre histoire... Je la connais, en fait. C'est la mienne. Et il a voulu m'aider et il m'a aidé à faire les recherches. Donc, j'ai fait les tests ADN. Il s'est chargé de tout ce qu'il en est.
Ouais.
J'ai fait les tests ADN. Et malgré toute ma jeunesse, mon frère et moi, nous avons fait des recherches. Je vous en passe des vertes et des pommes mûres là-dessus.
Racontez-moi tout, puis on va revenir sur quelques phases comme ça, parce que c'est intéressant. Ouais. Et donc, vous avez recherché, ouais.
Donc, je ne vais pas dire que c'est sans plus y croire, hein. Vous savez, je l'ai fait, voilà, il l'a fait, et ça a marché pour lui, pour John Wendelson, ça a marché pour lui. Moi, je l'ai fait, je n'ai même pas prévenu mon frère jumeau de ce que je faisais. J'ai donc fait un peu les choses comme ça, en pensant que je reviendrais quelques mois, 6 mois, 1 an après, et encore qu'il puisait peut-être au moins un soupçon de réponse.
Ouais.
Et il m'a appelé et il m'a dit « Vous avez matché avec quelqu'un aux États-Unis du nom de Jonathan Blake. »
Incroyable, incroyable.
Ouais.
Et comment... Alors, ok, d'accord. Bon, on déroule jusqu'au bout et puis je vous demanderai comment tout ça part avec le détail quand même, parce que c'est quand même incroyable.
Oui, bien sûr. Alors, cette personne, Jonathan Blake, c'était un jeune homme de 28 ans et lui figurait sur les tests d'un grand, on va dire, d'un grand site de comment dire, d'ADN américain. Je peux le dire dans le nom.
Bien sûr.
Alors, donc c'est le site Ancestry, c'est vraiment un des plus grands qui ont pignon sur rue aux États-Unis, on va le dire, hein, à première vue.
Ouais.
Et donc John Nelson, dans l'interprétation, me disait que ça doit être un cousin éloigné, parce que effectivement, je m'attuais à 950. J'y connais pas grand-chose, mais 950, ça correspond à un cousin. Et dès qu'on arrive à peu près entre 1500 et 2000, on commence à déjà arriver à un demi-frère ou frère. Je ne veux pas trop l'interpréter, puisque je ne suis pas spécialiste, des spécialistes, et pas moi. Mais en tout cas, toujours est-il dans sa réponse, pour moi, voilà. Et effectivement, il a commencé à construire, en fonction de l'arbre généalogique de Jonathan, il a commencé à tourner, à construire un arbre généalogique en me posant beaucoup de questions sur... Et moi, j'en ai conclu qu'effectivement, non, ça ne pouvait pas être un simple cousin, puisque dans l'interprétation de ma maman et de son histoire, j'ai simplement pensé qu'il avait refait sa vie, mon père avait refait sa vie. Et en remontant tout ça... Parce que c'est assez compliqué. Le nom qui avait été retrouvé, c'était un nom, qui était musulman, puisque mon père, c'était les années 60, c'était les mouvements
Black Panthers.
Exactement. Et il était plutôt Malcolm X, en fait. Dans ce mouvement-là, très très fort, puisqu'il était assez virulent dans ce qui se présentait, dans ce qu'il vivait, surtout.
Ouais, ouais.
Et donc, il était pro-Malcolm X. Donc, pour lui, l'interprétation de son nom et changer de nom, ça l'avait toujours été. D'ailleurs, moi-même, j'ai failli m'appeler un nom à consonance musulmane, donc pas de problème. Mais au dernier moment, ma maman, qui, elle, était originaire des Antilles, a choisi au dernier moment un autre nom pour des choses plus simples, parce que c'est ma mère des Antilles, on est dans ce cas de figure, toujours la fluidité, que ça se passe bien et que tout se passe bien, en fait.
D'accord.
Voilà. Et je continue.
Allez-y, ouais.
Arrêtons-nous
là, parce que on va faire durer un peu le suspense de cette histoire. D'abord, je voudrais vous demander comment est-ce que vous viviez, vous et votre frère, justement, quand vous étiez enfant, le fait de ne pas connaître votre père. Est-ce que c'était quelque chose que vous revendiquiez, que votre papa était un soldat américain? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que votre maman vous avait expliqué? Ou comment ça se passait?
Alors, ma maman, si je peux rappeler, ma maman était originaire de la Martinique.
Oui, j'ai compris.
Elle travaillait donc à Trinité dans l'administration, et un pote était à pourvoir dans les bases américaines, puisqu'elle était bilingue.
Ouais.
Donc, elle est venue, et c'est ce qui a été son motif de venir, en métropole, en France, pour pouvoir ce poste. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père, en fait. Voilà. Et à deux reprises, ils ont essayé de se marier. À deux reprises, il y avait un problème de papier, il y avait un problème, ça ne fonctionnait pas.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, ils faisaient leur vie, puisque c'était quand même la fin des années 50.
Ouais.
Et ils faisaient leur vie, et il y a eu ma sœur, il y a eu mon frère jumeau et ma petite sœur.
Ouais.
Et à un moment, comme tout le monde sait, De Gaulle a demandé aux Américains de partir.
Et
il a fallu qu'ils partent, le Vietnam, il a fallu qu'ils partent. Et un jour, il a envoyé un télégramme comme quoi il arrivait de tel avion, il n'est jamais descendu de l'avion. Et depuis, ma mère a vécu cette histoire à Évreux, nous n'avons jamais bougé d'Évreux.
D'accord.
Alors que mes tantes sont sur Paris, et avec les opportunités de travail et de tout, elle n'a jamais voulu bouger d'Évreux. D'ailleurs, on n'a jamais connu d'homme dans notre famille. Et nous, les questions pleuvaient. Pourquoi?
Elle l'attendait. Ce que vous entendez par là, c'est qu'elle l'a toujours attendu, votre maman?
Moi, je pense qu'elle l'a attendu sans nous le dire.
Ouais,
mais je
pense
qu'elle l'a attendu, parce qu'on ne reste pas comme ça.
Mais non, toute seule. Parce que je n'ai pas compris cette histoire d'avion. En fait, lorsqu'il ne descend pas de l'avion, en fait, cet avion, il vient d'où et il va où, cet avion ?
Il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis, puisqu'à l'époque, on envoyait des télégrammes.
Ouais.
Et là, on envoyait un télégramme en disant qu'il descendait, il arrivait à telle heure de tel avion. Alors, je ne me souviens plus quel aéroport, c'était sur Paris en tout cas. Et elle est donc montée pour l'attendre. Il n'est jamais descendu de l'avion. Et elle nous a toujours sorti cette histoire. C'est pas cette histoire, c'est d'ailleurs tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, et je le découvre. Tout était vrai, en fait, et elle l'a attendu, en fait. Il n'est jamais descendu, et ça a été une incompréhension le reste de sa vie. Elle n'a pas compris. Alors, c'est vrai que les événements qui se passaient aux États-Unis, et vous savez très bien, les Noirs qui étaient assassinés, la police, les arrestations...
Ouais, c'était une période, en tout cas pour les Black Panthers, ils étaient presque pourchassés là-bas aux États-Unis.
Oui, exactement. Donc, elle avait donc beaucoup de questions, elle n'avait pas les réponses. En tout cas, nous, on a vécu comme ça, mon frère et moi, surtout mon frère et moi étant jumeaux.
Ouais. En pensant qu'il était mort ou elle pensait quoi, votre maman, à votre avis?
Non, elle n'avait pas de réponse. Mais bon, comme ma maman avait travaillé dans les bases américaines, elle arrivait à avoir des réponses au niveau des... Alors, je ne sais pas trop, à savoir s'il était décédé. Et à première vue, il n'était pas décédé. On ne lui a jamais donné la réponse comme quoi il était décédé. Mais comme c'était un citoyen américain, les États-Unis ne donnaient pas de renseignements s'il ressortissait américain. Voilà. C'est les seules réponses qu'elle avait. Donc, en tout cas, elle avait la réponse qu'il n'était pas mort.
D'accord. Et vous, alors, à l'école, quand les copains vous demandaient ton père et tout, vous disiez quoi? Vous saviez que c'était un soldat américain?
On le savait. Notre maman nous l'a toujours mis en avant. On lui ressemblait, des airs, on était un peu écouté. Bon, depuis tout jeune, ma maman, on a toujours écouté de la musique chez Berry, Jerry et Louis, des choses comme ça.
Mon frère, bonne musique.
Voilà, c'est ça, sans comprendre vraiment, puisque chez les copains, c'est pas ce qu'on entendait.
Ouais.
Et mais nous, voilà, c'est ce qu'on écoutait. Mon frère restait un peu là-dessus, d'ailleurs, c'est son, voilà, le Fats Domino, tous ces groupes-là, ça, c'est mon frère. Moi, j'ai un peu dévié sur les choses un peu plus, voilà, de ce qui se fait.
Funky. Enfin,
de ce qui se fait. Funky, exactement.
Ouais.
Donc là, voilà, j'ai suivi tout. Roland, lui, n'a pas bougé de ça. Lui, il est resté dans son style de musique. Et son style de musique vient de là. L'origine vient de ça. Il n'a jamais bougé de ça.
D'accord.
Il a gardé des vieux trucs. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Il a gardé tout ça. Et ça lui ressemble bien. Et c'est son identité là-dessus, quoi, en fait.
Et alors, allez-y.
Non. Donc, nous, on a grandi avec ça. Et c'est vrai, quand on se retrouve à 20 ans et on perd sa maman. Et juste après, bon, j'ai perdu aussi ma sœur. Donc là, il y a des vides qui se forment.
Ouais.
Et donc, effectivement, j'ai fait des recherches moi-même par des courriers. Je voulais savoir, en fait, c'était plutôt une question de vérité, puisque ma maman n'a pas su vivre suffisamment pour avoir la réponse à ces questions.
Ouais.
Et ben, quelque part, j'avais ce sentiment de me dire, il faut que je cherche.
Comme un devoir quelque part aussi.
Tout à fait.
Ouais.
Voilà. Et il n'était pas question pour moi d'aller aux États-Unis comme un touriste, voire comme beaucoup. Voilà, j'ai été ailleurs, mais en tout cas, il était hors de question pour moi d'aller aux États-Unis sans avoir une réelle adresse, un endroit où je savais si demain je prenais l'avion pour les États-Unis, ça serait pour aller là où je devais aller, en fait.
D'accord. Alors, vous enquêtiez comment de France, là,
d'Evreux? Alors, c'est vrai que j'avais son nom, qui s'appelait Evans Moore, et originaire du Massachusetts, près de Boston, et j'ai toujours recherché tous les Evans Moore. Et si vous saviez le nombre de courriers que j'ai envoyés, des retours, n'habite pas à l'adresse, et ainsi de suite, j'ai appelé, j'ai téléphoné, maintenant, moi, j'habite sur Caen, je me suis donc renseigné sur tout, il y a beaucoup de cimetières américains, et il arrive à avoir des renseignements sur les militaires américains, je me suis renseigné aussi de ce côté-là, tout ça. Et voilà, tout ce qui était possible. Bon, ici, on fait les anniversaires tous les ans autour du mémorial, tout ça.
Oui.
Et dès qu'effectivement, je peux avoir des renseignements et choses comme ça. En plus, bon, j'ai travaillé aussi à l'étranger, et un ancien marine, plus précisément, et avec qui je lui ai demandé de se renseigner aussi là-dessus. Il a fait des recherches. Et le problème était complexe, puisqu'effectivement, il avait changé de nom.
Il avait changé de nom, et ça, personne ne savait. Oui, d'accord.
Personne ne savait.
Donc, quand vous écoutez ce soir-là à la radio cet homme-là de Châteauroux qui parle d'ADN, là, vous dites tout de suite, je vais le contacter, ça peut peut-être marcher pour moi.
Tout à fait. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit si dans les tests d'ADN il y a une approche même lointaine, cette approche me dira plus ou moins. Dans quel coin se trouve mon père, parce qu'à aucun moment j'ai pensé qu'il était encore dans Massachusetts, en fait. Les États-Unis, c'est grand, et je me suis dit peut-être qu'il est dans un autre état. On voit beaucoup ça dans les films américains, des gens qui décident de changer de vie, ils changent d'état, et quand ils changent d'état, il n'y a plus de trace, ils sont partis, ils sont ailleurs.
Ouais.
Enfin, c'est énorme, voilà. Et je me suis dit, si effectivement ça devait entre guillemets matcher sur une région des États-Unis, peut-être que par la suite je pourrais poursuivre mes recherches dans la région où mon ADN aurait matché, en fait.
Mais lorsque vous écoutez cet homme ce soir-là, cet homme
qui
témoigne, voilà, vous saviez qu'il y avait ces sites d'ADN comme ça, que vous pouviez aussi, vous, à partir de votre ADN, chercher votre père, ou c'était quelque chose que vous avez découvert ce soir-là?
Non, j'ai toujours pensé... futur, penser, j'ai toujours su que ça existait, mais l'idée de... il ne suffit pas de le faire, l'ADN, il faut encore qu'il y ait une réponse au bout, que les personnes aient aussi envie de le faire. Nous, en France, on n'a pas cette
mentalité
à se mettre dans des fichiers d'ADN.
Mais non, parce que moi, je découvre ça ce soir, hein, avec votre histoire, c'est que je ne savais pas qu'aux États-Unis, il y avait des banques d'ADN, en tout cas, que les Américains donnaient leur ADN et qu'on était répertoriés comme ça. Dans quel but, en fait, on donne son ADN comme ça aux États-Unis?
Ben, j'ai l'impression qu'd'abord, ils ont besoin de savoir leur origine, d'où ils sont. Ils ont besoin, bien sûr, c'est pas comme nous en France, on se pose pas trop de questions là-dessus.
S'il y a
un doute sur leur famille ou une chose comme ça, ils n'hésitent pas une seconde. Ils sont assez, pas binaires, mais ils se posent pas de questions. Ils se mettent sur des choses comme ça. Bon, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux. Quand c'est arrivé, en France, c'est pas tout le monde qui se jetait dessus non plus, à se ficher, à mettre leurs photos. Aujourd'hui, maintenant, c'est monnaie courante, tout le monde le fait. Et encore, il y en a qui sont encore assez réticents à le faire, alors qu'aux États-Unis, ça leur pose aucun problème là-dessus.
Mais alors, Raymond, je vais vous dire un truc, c'est que dans les jours qui viennent, moi, je vais le faire, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais il est vrai qu'on me l'a... En plus, je fais le Téléthon demain avec qu'un médecin m'a expliqué l'ADN, tout ça, l'histoire, notre histoire. Mais je vais le faire. On va marquer une pause pour écouter le journal de la nuit d'Europe. Et puis, on se reparle tout de suite après, d'accord?
D'accord, très bien.
À tout de suite, Raymond.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus sur votre libre antenne. Vous êtes bien sûr votre radio sur Europe 1 et nous vous accompagnons jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Raymond qui nous raconte son histoire. Raymond qui a cherché son père, militaire américain, sur la base 105, une grande base... les avions étaient là-bas, hein, ça a toujours été avions là-bas. Et les Américains étaient là jusqu'au moment où le général de Gaulle demande aux Américains de partir. Et donc, Raymond, vous avez cherché ce père pendant très longtemps. Alors, on en était à cet ADN vous faites prendre votre ADN. Et ensuite, quelle démarche vous faites avec ce détective?
Moi, il me demande donc, il me fait envoyer les tests chez moi. Donc, à première vue, j'ai l'impression que ça vient d'Irlande.
Oui.
Et ça part directement dans les laboratoires américains. Donc, effectivement, il a fallu que je suive. Bon, c'est relativement simple. Hein. C'est dans un crachat, dans un tube. C'est bien fermé, avec repli, avec un liquide, j'imagine, de conservation pour le voyage, pour que ça reste vraiment, comment on pourrait dire, fermé.
Oui.
Et c'est envoyé. Et une fois que c'est envoyé, vous êtes avec le numéro de série, vous vous inscrivez sur le site. D'ailleurs, c'est le site eux-mêmes qui sont reliés. Et ils vous connaissent puisque vous avez fait cette demande avec un numéro bien, bien spécifique, comme on appelle ça, des codes-barres.
Ouais.
Et sur le site, on suit, le processus, en fait. Donc, l'envoi, l'arrivée, comment ça se passe. Et à un moment, ils vous envoient un message en disant... si ça match ou pas, et ils vous envoient plein de personnes avec un degré de PCM, c'est ce que je dis, un certain nombre de PCM avec un nombre incroyable de personnes, mais quand vous arrivez, je sais pas, sur 10-20 CPM, finalement, c'est rien, c'est tellement, mais c'est loin, quoi, c'est lointain, et vous en avez, comme par hasard, j'en ai eu 4, comme ça, où ça a matché autour de 800-900, ce qui est beaucoup, c'est énorme. Et alors John Nelson qui était en parallèle sur le site et qui recevait aussi les appels, m'appelle aussitôt, il me dit « Vous avez matché avec 4 personnes, c'est incroyable ». Il ne pensait même pas que c'était, puisque le peu de renseignements que j'avais, vraiment. Et là, il a travaillé tout de suite dessus et il le dit dans une autre émission, il le dit, on lui a demandé, mais ça vous a pris combien de temps? En tout cas, pour lui, il répond, 2 heures. Et il le dit, mais assez, vraiment, 2 heures. Ça lui a pris 2 heures, il a travaillé 2 heures, et il a retrouvé, il a remonté tout l'arbre généalogique mes neveux, d'un neveu éloigné, puisque effectivement, c'est le fils d'une demi-sœur, en fait. Et lui avait monté déjà un arbre généalogique de toute sa famille. Il suffisait de brancher mon frère et moi, ma sœur et mes sœurs, en fait. Et tout le reste, était la boucle était faite. Alors qu'on n'existait nulle part. Il ne nous connaissait pas. Et là, l'émotion est assez forte, en fait.
Alors, comment ça s'est passé? Vous avez fini par aller aux États-Unis?
Non, c'est tout récent. Là, je raconte une histoire qui est toute récente.
Ah, qui est toute récente. Là, ça date de combien de temps, en fait?
Eh bien, j'ai la réponse depuis 3 semaines.
Ah, depuis 3 semaines, d'accord.
Oui. Ah oui, c'est tout récent.
Et alors, donc, comment vous êtes au courant de l'émotion là-bas, aux États-Unis? Vous avez pu échanger déjà? Vous êtes envoyé des mails?
Avec ce neveu, donc, John Nelson a pris le premier contact.
Oui.
Et un soir, à l'heure comme aujourd'hui, je vous parle, à 23h, il m'envoie un message. Êtes-vous prêt à recevoir une première photo, en fait? Et je me suis dit, j'étais un peu perplexe.
Oui.
Il prend son temps, donc j'appelle mon frère, il me dit, j'appelle mon frère, je lui dis, John Nelson est prêt à m'envoyer une photo de notre père, mais en fait, en reste perplexe, on se dit non, il va envoyer, il se trompe, c'est autre chose, il pense que c'est, et voilà. En fait, ce qu'il en est, c'est que ma maman, et surtout moi, me disait toujours, surtout quand elle était un peu énervée, mais il a les yeux de son père, et finalement, pour une mère, dans le visage de ses enfants, c'est forcément l'image du père. On peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et dans des moments comme ça, et ça, c'est des choses quand on est enfant, surtout quand on a perdu sa maman, c'est des choses qui restent et des phrases qui restent. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai reçu la photo, c'est la première chose que j'ai pensée.
Et est-ce que quand vous avez reçu la photo, vous avez tout de suite su que oui, c'était lui?
Ouais. Sans un doute, en fait. Je n'ai pas douté sur l'instant. Je l'ai montré à mon frère et lui, il restait un peu perplexe parce que lui, il est comme ça, il a besoin de plus de choses, de plus de preuves.
Ouais.
Et les choses en est, c'est que moi, je n'ai pas douté un seul instant, mais j'avais besoin de conforter mon frère parce que ça nous rassemble, en fait.
Oui, ça a dû être... Et donc, votre père, vous avez appris plus de choses depuis 3 semaines? Est-ce que...
Ce que je veux dire, voilà, ça nous rassemble, parce que là, j'ai un petit moment de...
Voilà, oui, j'entends, Raymond. Oui, je comprends.
Et donc, j'ai appelé ma tante, en fait, parce que ma tante, elle aussi, était là pendant les années 60, et son mari était militaire dans l'armée française, c'est autre chose.
Oui.
Et ils l'ont connu, et ça se passait pas... Je vais pas dire que ça se passait pas bien, mais voilà, c'était une autre époque. Et je leur ai envoyé la photo, ils ont répondu tout de suite, oui, c'est lui.
Ah ouais, génial.
Sans hésitation, ouais. Et là, j'ai confirmé ça avec mon frère Roland, et là, ça a été pour lui, quoi. Il avait besoin de ça en plus. Mm-hmm. Ça ne suffisait pas, en fait, parce qu'il était pris, c'est la technique, on ne sait pas, finalement. Et là, ça a été net et précis. Et là, après, on a reçu d'autres photos où il était militaire aux États-Unis, en France, je veux dire, sur les bases de l'OTAN françaises.
Oui.
Parce que bon, c'était... et on a reçu d'autres photos où il était sergent lieutenant, en fait. Lieutenant, mais sergent-chef, c'est le même grade.
Oui.
Et on le voit donc en uniforme. Et inconsciemment, comment dire ça? Il y a des photos, étant jeune, ça reste dans la mémoire sans vraiment en avoir vraiment la réalité, puisque je n'avais pas son visage en tête.
Oui.
Mais c'est tout qui revient, c'est des flashs, en fait. Et c'est des photos d'uniforme. Même j'en parlais avec mon frère, et il disait, c'est des photos, j'ai l'impression de les avoir déjà vues. J'imagine qu'il les a déjà vues, puisque ce sont des photos de l'époque.
Oui.
Et ça reste des flashs, il est parti. Et quand on les a vus, tout est sorti. Ça a été beaucoup d'émotions, en fait.
Ah oui, je me doute. Ouais. C'est fantastique.
Ah oui, parce que pendant des années, vous n'avez pas l'image d'un homme sur lequel vous fabulez, puisque par le fait qu'il soit américain, on ne va pas raconter l'histoire. Militaire américain, on n'a pas...
Toute une part de fantasme aussi qui doit s'installer, comme ça, qui doit construire une image. Ouais.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et là, l'image est réelle et surtout sans déception, en fait. C'est même au-dessus beaucoup plus, parce que c'est vraiment une vraie histoire que d'ailleurs ma maman a vécue elle-même et a traversée. Ouais. Nous en sommes le fruit de cette belle histoire, en fait, parce que vraiment, ouais.
Et Raymond, aujourd'hui, donc, le fait d'avoir retrouvé même votre famille là-bas aux États-Unis, en fait,
bien sûr,
au-delà de, je suppose, la satisfaction de... voilà, de se sentir plus riche, hein, parce que voilà, on sait, oui, que de l'autre côté, bah, de l'Atlantique...
Surtout équilibré, on a toujours voilà, cette impression, vous savez, vous remplissez des documents, et c'est comme ça en France, bah, père inconnu, vous savez, cette phrase,
le nom
de la mère, le nom du père, inconnu, c'est toujours des choses qui reviennent dans l'administration, parce qu'en France, c'est comme ça, et peut-être ailleurs, d'ailleurs. Mais là, bah oui, ça reste quand même pareil dans les papiers, mais au fond de nous et dans notre...
Dans votre cœur.
Ce ouais. C'est fini, ça.
C'est fini.
C'est plus un père inconnu. Il est décédé en 2010.
Oui.
Donc, mais c'est pas grave, parce que finalement, toute son histoire, la famille qu'il a refait aux États-Unis, c'est eux qui nous la donnent, en fait. C'est comme si on l'avait vécu pareil.
Ouais.
Parce que le peu de contact que déjà on a commencé à voir, il parle énormément, en fait. Et il nous raconte.
Ah, c'est génial. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a marqué, là, depuis ?
Eh bien, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est pas compliqué. Quand il était... c'est un homme, voilà, il était... c'était peut-être l'époque, comme ça. Il avait déjà une famille aux États-Unis.
Oui.
Il avait un garçon et une fille. Et,
donc, vous avez une frère et un sœur. Vous avez un frère et une sœur.
Mais plus que ça, puisque il est venu donc en France, il a vécu... ouais, c'est ça, de 59 jusqu'en 66, et
oui,
c'est là que nous sommes arrivés, et il pensait peut-être que ça allait durer, et il vivait sa vie en France, et en fait, il était sur deux familles, en fait, hein. Et quand il est rentré, bah, il a avoué ça à son épouse, qu'il avait une famille en France, et elle l'a quitté, et bon, et après, il est parti, je sais pas trop, au Vietnam, il y a eu tout ça, et il a refait une famille en Virginie.
D'accord.
Voilà. Donc, vous voyez, c'était assez, c'est l'époque, c'est ça bougeait beaucoup, c'est assez, voilà. Mais par contre, la famille en Virginie, il est resté jusqu'à la fin de sa vie avec eux, en fait.
D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, en fait, en plus riche, hein, de ça, parce que c'est une partie de votre histoire, hein, qui est là-bas, de l'autre côté.
Oui, oui.
Est-ce que vous comptez vous rendre aux États-Unis, les rencontrer et passer un...
Maintenant, je peux dire que j'ai une bonne raison.
Ouais, voilà, ouais, carrément.
Faire du touriste, aller voir New York, ou comme beaucoup, je reçois d'amis qui partent.
Ouais,
Ah, ouais, attends, j'imagine, hein, c'est pas un problème, mais moi, y aller et revenir, je pense que j'aurais été frustré d'y aller même serait-ce en vacances et de revenir sans avoir cette réponse qui me hante depuis mon enfance, en fait.
Ouais,
alors
ouais,
que là, je sais que j'irai, je sais pas, voilà, mais déjà, les Américains sont assez ce côté comme ça, un peu. Bon, je m'y attends, mais c'est pas le problème. Moi, je pense que voilà, ça se passera très bien, puisque déjà le peu de contact qu'on a, ça se passe déjà très bien.
Ah, mais moi, je pense que vous allez sûrement vivre des moments. En tout cas, vous plus peut-être que cette famille américaine, parce que elle, à mon avis, vous avez été comme ça, vous êtes arrivé dans leur vie parce qu'ils ne connaissaient pas votre existence.
Non.
Mais je pense que si, en tout cas aujourd'hui, ils se prêtent à toute cette démarche et qu'ils vous envoient des photos, et c'est que ça compte pour eux. Et donc,
vous
risquez de vivre quand même un moment quand même assez exceptionnel. C'est, bon, c'est génial.
Bah, moi, ce que je sais, c'est que il y a une petite nièce qui est écrivain aux États-Unis,
ouais,
qui s'appelle Rebecca Coxwell, et qui a écrit, comment on va dire, c'est pas un livre, mais des choses sur lui, qui d'ailleurs l'interprétait sur lui, et vraiment elle dit des choses vraiment extraordinaires sur lui. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs sur la piste en lisant un petit peu, c'est comment on pourrait dire, c'est pas un livre, mais c'est une partie où il y a des écrits,
oui,
c'est très bien écrit, c'est vraiment chouette, et c'est ce qui m'a amené un petit peu plus sur la piste, et m'a confirmé beaucoup de choses sur sa vie, sur plein de choses, et en fait ils l'ont perdu, comme je peux dire aussi la même chose, mais en 2010. Et pour eux, ça a été un choc, en fait. Ils en ont fait tout un... Voilà, il a enterré au cimetière américain comme un héros. Il a tout, toute sa vie militaire, tout ça.
Ouais.
Et nous, on arrive 10 ans après et on se met en contact avec eux et on vient de d'une partie de sa vie. Ils le prennent, mais vraiment, sans se poser de questions, c'est vraiment... comme si c'était quelque chose vraiment de très positif dans
tout ça. Ouais, mais c'est surtout, je pense, très important pour oui, vous comme oui, pour oui. eux. Pour vous comme ouais, pour oui. eux. Vous vous rendez compte, vous allez pouvoir aller sur la tombe de votre père avec eux.
Oui.
Oui. Ça va être un grand moment, quoi. Ça va être un grand
c'est
moment.
C'est énorme, parce que j'y pensais aussi. C'est la... Voilà. Donc, vous venez de dire la chose, c'est que si je monte aux États-Unis, c'était pour ça.
Ouais.
Pour le voir vivant, ou même sur sa tombe. C'était ça. Voilà, j'y suis. En fait, j'y suis. Et je pars pas, parce que finalement, dans la vie, il arrive tellement de choses. Je serais de partir sans connaître et avoir des réponses et avoir la finalité de tout ça. Parce qu'il y en a qui partent sans savoir, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et là, vous savez. Vous et Roland, oui, vous savez. Vous et Roland, oui, vous savez. Fait. Mais écoutez, c'est génial. Mille merci pour cette superbe histoire, Raymond. Mille merci.
Alors, beaucoup de gens sur Évreux sont dans le même cas, et depuis, c'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et beaucoup de personnes prennent des contacts là-dessus parce qu'ils vivent la même histoire.
Ouais.
Et moi, aujourd'hui, ce que je peux leur dire, il y a une personne qui me disait, moi, j'attends que ce soit lui qui prenne contact. Mais non, aujourd'hui, non, il faut aller de l'avant, il ne faut pas passer à côté. Et aujourd'hui, la technique, elle est là, il ne faut pas hésiter une seconde. À tous ceux qui ont un doute, qui hésitent, qui se posent des questions, il ne faut plus se poser de questions, il faut aller droit devant et le faire, et au moins ne pas avoir de regrets, parce que ça n'a pas de prix, en fait. Voilà.
Non, connaître son histoire, ça n'a pas de prix, vous avez raison.
Non,
vous avez raison.
Exactement.
Je pense que ça vous a apporté à vous et à votre frère aujourd'hui, en tout cas, comme un puzzle, là, vous avez remis les pièces manquantes, quoi. Eh ben, écoutez, super, je partage votre bonheur. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci.
Et écoutez, quand vous irez aux États-Unis, vous nous enverrez un petit message quand même. Hein ?
Tout à fait.
Très bien.
Plaisir.
Je vous remercie, Raymond. Merci. Passez une belle soirée. Au revoir.
Merci. Au revoir. Au revoir.